Nord avec le soleil qui joue à cache-cache. Dans quelques secondes, je vous dis tout sur votre météo en Occitanie. Pour vos rendez-vous, dans moins de 10 minutes, l'interview du jour avec Isabelle Honnel et son invitée Elisabeth, qui est infirmière. Elle va nous parler de son quotidien dans un EHPAD en temps de Covid, à ne surtout pas louper. Dans 20 minutes, Église Actualité comme tous les jours avec Emmanuel Pella. En deuxième partie d'heure, le tour des diocèses et nous partons en Pyrénées Atlantiques, sans oublier votre chronique Église Verte en fin d'heure. Mais juste avant... Bonjour à toutes, bonjour à tous, le rappel des titres. Couvre-feu pour les deux métropoles d'Occitanie. Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des lieux publics et interdiction de circuler de 21h à 6h. Ces nouvelles mesures sont applicables sur Toulouse et Montpellier. L'Occitanie en rouge dans une carte de l'Europe de zones les plus touchées par l'épidémie. Une carte publiée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies fait état de la situation sanitaire dans le continent. À Blagnac, le plus gros squat de la région toulousaine a été démantelé hier. 85 personnes ont été évacuées. La situation de chaque occupant doit être examinée par la préfecture et l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le 58e salon international de l'agriculture est lui annulé. En 2020, 120 producteurs et 50 éleveurs d'Occitanie avaient un stand au salon. 950 participants d'Occitanie étaient en lice au concours général agricole. La sénatrice de Tarbes, Viviane Artigalas, nommée rapporteur de la mission sur la réforme d'Action Logement. Cette commission devra, dans les délais très brefs du débat sur la loi de financement, dresser un bilan de la politique du gouvernement en matière de logement social. L'agglomération Grand Auch, cœur de Gascogne, poursuit son enquête. Elle est réalisée en prévision du renouvellement du contrat de délégation des services publics pour le transport urbain. Objectif, mieux connaître les habitudes de déplacement des citoyens afin d'améliorer le réseau de bus. La distribution d'électricité est perturbée sur une partie de la ville de Florence dans le Gers. Le câble souterrain exploité en 20 000 volts qui alimente le transformateur desservant le quartier rue des Peupliers est endommagé en plusieurs endroits. Une gendarme de Lourdes remporte le championnat de France de cyclisme. Lydie Chantry, âgée de 28 ans et maréchal des logis-chefs à Lourdes, est montée sur la plus haute marche du podium.
La météo.
Pour cet après-midi, 12 degrés en moyenne dans notre partie d'Occitanie avec des éclaircies. Demain matin, le temps sera très nuageux dans le Lot, près de la place nationale à Montauban avec 6 degrés et 4 pour Rodez. Le mercure montera avec 7 degrés et du soleil. Pareil pour le Gers et en Haute-Pyrénées avec un petit 5 degrés. L'après-midi, encore un ciel lumineux pour l'ensemble de l'Occitanie. 13 tout près du jet d'eau au rond-point de Cahors ainsi qu'à Toulouse et Auch. 8 à Lannemezan.
Présence dans le Luchonnais, 94 FM.
Isabelle, vous recevez une infirmière qui travaille dans un EHPAD à Toulouse.
Et oui, Elisabeth est aussi une fidèle auditrice de Radio Présence. C'est elle qui nous a contactés car elle souhaitait partager son expérience, son quotidien d'infirmière en EHPAD par temps de Covid et rectifier aussi l'image, selon elle, écornée de la qualité de la prise en charge des résidents dans ces établissements. Bonjour Elisabeth, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour Isabelle.
Alors Elisabeth, votre initiative me permet de vous rappeler hein, aussi à vous qui nous écoutez chez vous, dans votre voiture, en train de prendre votre petit déjeuner, que sais-je, que ce que vous vivez nous intéresse hein, et que l'on est toujours heureux de vous donner la parole quand on le peut. Elisabeth, vous nous avez contacté, on est heureux de vous recevoir, vous avez 55 ans, vous êtes maman de 4 enfants et infirmière, vous l'êtes depuis 35 ans, en EHPAD depuis 18 ans, ce qui vous donne un peu de recul hein, sur la profession. J'aimerais tout d'abord, avant que vous nous racontiez un peu ce que vous vivez en ce moment, vous faire réagir à cette enquête qui a été menée par l'Ordre National des Infirmiers. Elle a été rendue publique la semaine dernière. Cette enquête réalisée auprès de 60 000 soignants révèle que 40% des infirmiers souhaitent changer de métier. Est-ce que c'est votre cas?
Oui, j'ai entendu cette... ces chiffres qui sont énormes, mais je comprends parce que la plupart d'entre nous, on traverse des moments de grand découragement, le sentiment d'être un peu abandonné par les pouvoirs publics, par le manque de moyens, de ne pas être entendu malgré les nombreuses manifestations qu'il y a eu, de ne pas être rémunéré non plus à la hauteur de notre engagement et de nos responsabilités. Pour ma part, j'ai eu la chance aussi de pouvoir m'arrêter plusieurs fois depuis 35 ans pour m'occuper de mes enfants, de ma famille. Voilà, ça allège un petit peu, c'est une autre façon de vivre. Donc ça allège aussi un peu ce sentiment, mais depuis que j'ai fait mes études, je me suis rendu compte que de toute façon, la durée de vie moyenne d'une infirmière dans ce métier était assez brève. À l'époque, on disait qu'en moyenne, une infirmière travaillait 7 ans comme infirmière.
Est-ce que vous diriez que vos conditions de travail depuis 35 ans se sont dégradées? Est-ce que vous le voyez, vous le constatez au quotidien, ça?
Oui et non. Je pense que il y avait certaines choses qui étaient plus difficiles il y a 35 ans. Par exemple, il y avait beaucoup moins de temps partiel. Donc, effectivement, mener de front une vie de famille et une carrière à temps plein, c'est déjà physiquement, c'est très 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 fatigant. Maintenant, on a aussi beaucoup plus d'aide technique, de matériel plus performant pour nous rendre physiquement la tâche moins difficile, bien qu'elle le demeure. De temps en temps, je travaille avec un podomètre et quand je regarde à la fin de la journée le nombre de kilomètres effectués, c'est sidérant.
Combien?
Une bonne grosse journée de randonnée.
Combien de kilomètres?
En général, ça tourne entre 10 et 18 kilomètres.
Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Dans une journée.
Une bonne journée de randonnée.
Ah ouais, c'est ça.
Voilà. Puis, par contre, la multiplication du temps partiel aussi permet qu'on puisse mieux accommoder notre vie de travail et notre travail et notre famille.
Donc il y a tout de même des bonnes choses et merci de les signaler. Alors je rappelle un peu le cadre dans lequel vous évoluez. Vous êtes dans un EHPAD à Toulouse. Vous m'avez dit en préparant cet entretien la charge d'environ 30 personnes. On comprend que vous trottiez entre 10 et 18 km par jour, ça fait beaucoup. Votre établissement peut contenir 80 personnes. Hors Covid, les journées commencent à quelle heure?
En fait, c'est non-stop, puisqu'il y a du personnel présent toutes 24 heures sur 24. Mais pour les infirmières, on commence entre 7 heures et 8 heures.
Et alors, comment vous l'avez vécu, la première vague au mois de mars? On va faire un peu de rétro-pédalage. Comment ça s'est passé pour vous dans votre EHPAD? Je crois qu'il n'y a pas eu de décès. Comment vous avez fait?
En fait, on a appliqué dès le début, avant même les préconisations gouvernementales, notre groupe nous a donné des consignes d'interdiction des visites. Ça a été mal vécu par les résidents, par les familles. Mais ça a permis d'isoler un petit peu plus des contacts de l'extérieur. On a eu très rapidement du matériel, des masques entre autres, pour protéger les résidents. Et puis, quand les résidents ont été confinés en chambre, ça a été une mesure de protection qui a été difficile à vivre pour eux parce qu'ils ont été encore plus coupés des relations, non seulement des relations avec leur famille qui étaient déjà faites depuis donc début mars, mais des relations entre eux, puisqu'ils se retrouvent à table dans une salle à manger commune pour les repas. Des animations collectives, des rencontres qu'ils peuvent faire entre eux parce que des liens se sont tissés entre eux. Et puis, ils ont eu aussi beaucoup moins de contacts avec le personnel puisque on a fait attention aussi qu'il n'y ait pas trop de monde qui intervienne auprès de chaque résident. De toute façon, à limiter les risques.
Vous les avez protégés en quelque sorte. Vous
bien
les avez,
sûr,
pardon.
On les a protégés, mais ça a eu comme impact aussi d'appauvrir gravement leur vie sociale. Mmh. Et pour certains, ils en ont souffert.
Mmh, bien sûr. Vous dites que ça a été mal vécu par les résidents, probablement aussi mal vécu par les familles. Est-ce que vous l'avez comprise, cette mesure d'isolement des personnes âgées ?
On l'a comprise, évidemment. Il était nécessaire de protéger les personnes les plus fragiles. Ce virus, il entre de façon sournoise. On ne le voit pas, on le découvre. On a tout de suite mis en place des mesures de surveillance, entre autres de la température. Il entre de façon sournoise, quoi. Enfin, ça se voit pas. Donc, il fallait protéger absolument.
Il fallait protéger les personnes. Ça a eu du bon puisque vous n'avez pas eu de décès Covid. Hein. Vous m'avez dit qu'il y avait quand même eu des décès que vous attribuez au confinement, à peu près 5. En tout cas, vous avez dit qu'il y avait des comportements d'abandon, de rejet de la vie du fait du confinement. Alors, face à la deuxième vague, vous nous avez écrit une course perpétuelle avec l'inquiétude permanente de ne pas faire d'erreur. En quoi le Covid, on parlait de vos conditions de travail, en quoi le Covid a bousculé votre travail, Elisabeth ?
Eh ben, effectivement, il faut chaque semaine, on a un dépistage généralisé dans l'établissement des salariés et des résidents chaque semaine. Et chaque semaine apporte de nouveaux cas. Donc il faut faire le tri entre ceux qui sont positifs et ceux qui sont négatifs pour pas que les positifs contaminent les négatifs. Et donc ça inclut des déménagements de résidents. Donc pour beaucoup, ça les désoriente davantage encore. Ça a augmenté la charge de travail aussi parce que toute la surveillance clinique qu'implique la découverte d'un cas positif, c'est très très lourd. C'est des heures et des heures de surveillance supplémentaire. Ça a compliqué parce que les résidents sont à nouveau confinés en chambre. Donc certaines choses qui étaient facilitées par le fait qu'ils étaient regroupés à un moment donné pour les repas, entre autres, pour la distribution des traitements, c'est compliqué parce qu'il faut faire la tournée en suivant un certain ordre, hein, puisqu'il faut d'abord s'occuper des personnes négatives avant de s'équiper. Il y a aussi le temps de l'équipement qui est compliqué, avec sur blouse, charlotte, sur chaussures, masque, masque spécial. On porte un masque tout le temps. Mais pour intervenir auprès des personnes positives, on a un autre masque spécial, des gants qu'il faut retirer à chaque fois. Enfin, tout ça, c'est des gestes supplémentaires qui alourdissent beaucoup notre travail. Et puis tous les contacts avec les familles et les médecins pour réagir au mieux en fonction de l'état.
On vous sent fatiguée, Elisabeth. Alors c'est votre jour de congé. Pardon de vous réveiller si tôt un jour de congé. Est-ce que vous êtes en colère?
Ça a été le cas au début parce qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on comprenait pas, de la lenteur à mettre les choses en place, des choses des fois incohérentes. Là, ça s'est bien amélioré parce que maintenant ça fait 4 semaines hein, qu'on a le Covid dans l'établissement, donc on a pu s'organiser, on a des aides aussi extérieures, on a 3 personnes de la réserve sanitaire en plus dans l'établissement. Donc vu qu'on a aussi moins de résidents, on a un meilleur ratio soignants-soignés, donc ça s'est quand même apaisé. Après ça reste compliqué parce que je disais qu'il y avait des dépistages toutes les semaines, on a fait un dépistage généralisé hier. Bon, comme je suis en repos, je n'aurai les résultats qu'à mon prochain jour de travail. Mais il y a à nouveau chaque semaine des cas supplémentaires. Donc il y aura de nouveaux déménagements. La prochaine fois quand je prendrai mon poste, il y aura des personnes qui seront décédées. Peut-être des personnes qui ont été révélées positives et qui auront déménagé. Peut-être des personnes qui se seront davantage découragées encore de ne pas voir leur famille et qui seront entrés dans un syndrome de glissement. Voilà,
En préparant cet entretien,
c'est habituellement pour les résidents qui est perdu en fait.
En préparant cet entretien, vous m'avez dit vouloir aussi rétablir un peu les choses, mettre les points sur le i. Vous parliez d'EHPAD bashing. Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
Je veux dire que depuis plusieurs années, on entend régulièrement et il est juste de dénoncer les mauvaises pratiques et la maltraitance. Mais on entend régulièrement la critique des EHPAD, de les qualifier de mouroirs, de lieux où les gens sont maltraités ou abandonnés, pas correctement soignés. Alors évidemment, on n'est pas les familles et jamais on fera aussi bien dans le cocooning d'une personne âgée que la famille. Mais en même temps, on a des compétences professionnelles qui leur apportent les soins dont ils ont besoin. Et
présence,
je vous assure que vraiment tout le personnel, même le moins qualifié, est dévoué auprès des personnes âgées. Et on comprend la culpabilisation et l'inquiétude des familles. Pour autant, la plupart des résidents vivent bien, vivent heureux et vivent longtemps en EHPAD. Là, on a actuellement encore deux ou trois résidents qui sont là depuis quasiment l'ouverture de l'établissement en 2002.
Donc, alors, je crois que vous avez dû renoncer au pèlerinage du Rosaire. Hein, vous le faites chaque année. Comment vous voyez, oui, ça sera ma dernière question, comment vous voyez les semaines à venir? Est-ce que des vacances, vous allez pouvoir en prendre?
Alors, les vacances, j'ai prévu de partir au mois de novembre visiter mes propres parents âgés dans une autre région. J'espère que ce temps ne sera pas annulé, mais enfin bon, je pense que là maintenant les choses sont bien en main et que on a le personnel nécessaire. Ça m'étonnerait que mes congés soient annulés, mais j'espère que par ailleurs les vols et tout ça ne seront pas annulés, que je pourrai
vous reposer un peu. Eh bien, merci à vous, Elisabeth, pour ce témoignage. 18 km par jour, ce que vous faites. Merci à vous, merci à toutes les infirmières qui travaillent auprès de nos aînés. Un grand merci pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes infirmière en EHPAD à Toulouse et que c'est vous qui nous avez contactés pour nous livrer ce témoignage. Merci à vous.
Je vous en prie, bonne journée.
Église Actualité arrive dans notre région en Occitanie avec Emmanuel Pellas et dans 5 minutes pour commencer votre repas, votre musique sur votre radio chrétienne avec Florent Marché.
Shanghai, Daiquiri, Bambi, Galaxy, bonne nuit les petits. Shanghai, Toussainty, iPad et fossiles, un rien nous habille. Je n'ai plus de famille. Shanghai, Daiquiri, Bambi, Galaxy. Quel est mon pays? Capsule, mon cap canavéral, tout seul dans ma bulle, loin du carnaval. Est-ce que tout est normal? Shanghai dans l'arène, en Porsche Cayenne. Les autres en quarantaine. King size à la yacht. Pétrole et nitrate.
Valkyrie, Bambi, Galaxy. Promis, c'est fini. Je vais refaire ma vie. Où est ma capsule? Mon cap canavéral. Quelle est la formule? Quel est le signal? Tout seul dans ma bulle.
Présence à Moissac, 93.3.
Église Actualité, Emmanuel Pella.
Aujourd'hui, ce jeudi 15 octobre à Rodez, le diocèse de Rodez et de Vabres propose la conférence intitulée « L'humanisme intégral », conférence qui sera donnée par le père Paul Valadier, jésuite, professeur émérite de philosophie aux facultés jésuites de Paris, conférence qui fait suite à la publication de l'encyclique sociale du pape François « Tutti Fratelli ». Rendez-vous à 10h30 ce jeudi 15 octobre à la maison diocésaine Saint-Pierre à Rodez. Ce vendredi 16 octobre, demain donc, à Lourdes, commencera au Centre Assomption une retraite sur le thème « Initiation aux exercices spirituels » animée par les Cotopaïs, ces centres jésuites dans le sud-ouest. Un temps de retraite selon donc les exercices de Saint Ignace, ce saint fondateur des jésuites. Pour tout renseignement complémentaire, un site internet www.assomption-lourdes.com. Ce vendredi 16 octobre également à Pau, la paroisse de la Sainte Famille propose, comme chaque premier vendredi du mois, une veillée de prière pour les malades et ceux qui souffrent, précédée du chapelet animé par la communauté de l'Emmanuel. Rendez-vous ce vendredi à 19h à l'église Sainte-Bernadette à Pau. Ce vendredi 16 octobre toujours, à Cahors, le diocèse de Cahors, pour rappel, propose une veillée miséricorde avec au programme adoration du Saint-Sacrement, proposition du sacrement de réconciliation ou possibilité de rencontre avec un prêtre. Rendez-vous ce vendredi à 20h30 à la cathédrale Saint-Étienne à Cahors. Ce samedi 17 octobre à Toulouse, à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, le diocèse de Toulouse propose un temps appelé « Rencontre et prière ». Au programme « Temps de prière et de rencontre » donc, au cours de laquelle la parole des plus pauvres sera mise à l'honneur en cette journée donc mondiale du refus de la misère. Rendez-vous ce samedi 17 octobre à 15h à la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse. Enfin, ce dimanche 18 octobre à Cahors, le diocèse de Cahors organise une journée consacrée aux soignants, de l'agent de service en passant par le médecin, les aides-soignants, ambulanciers ou kinés. Une journée animée par le docteur Isabelle Balinguienne. Rendez-vous ce dimanche 18 octobre dès 9h30 à la maison diocésaine à Cahors.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com.
Thank you.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, le rappel des titres. Couvre-feu pour les deux métropoles d'Occitanie. Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des lieux publics et interdiction de circuler de 21h à 6h. Ces nouvelles mesures sont applicables sur Toulouse et Montpellier. L'Occitanie en rouge dans une carte de l'Europe de zones les plus touchées par l'épidémie. Une carte publiée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies fait état de la situation sanitaire dans le continent. À Blagnac, le plus gros squat de la région toulousaine a été démantelée hier. 85 personnes ont été évacuées. La situation de chaque occupant doit être examinée par la préfecture et l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le 58e Salon international de l'agriculture est lui annulé. En 2020, 120 producteurs et 50 éleveurs d'Occitanie avaient un stand au salon. 950 participants d'Occitanie étaient en lice au concours général agricole. La sénatrice de Tarbes, Viviane Artigalas, nommée rapporteure de la mission sur la réforme d'Action Logement. Cette commission devra, dans les délais très brefs du débat sur la loi de financement, dresser un bilan de la politique du gouvernement en matière de logement social. L'agglomération Grand Auch, cœur de Gascogne, poursuit son enquête. Elle est réalisée en prévision du renouvellement du contrat de délégation des services public pour le transport urbain. Objectif, mieux connaître les habitudes de déplacement des citoyens afin d'améliorer le réseau de bus. La distribution d'électricité est perturbée sur une partie de la ville de Florence dans le Gers. Le câble souterrain exploité en 20 000 volts qui alimente le transformateur desservant le quartier rue des Peupliers est endommagé en plusieurs endroits. Une gendarme de Lourdes remporte le championnat de France de cyclisme. Lydie Chantry, âgée de 28 ans et maréchale des logis-chefs à Lourdes, est montée sur la plus haute marche du podium.
La météo.
Pour cet après-midi, 12 degrés en moyenne dans notre partie d'Occitanie avec des éclaircies. Demain matin, le temps sera très nuageux dans le Lot, près de la place nationale à Montauban avec 6 degrés et 4 pour Rodez. Le mercure montera avec 7 degrés et du soleil. Pareil pour le Gers et en Haute-Pyrénées avec un petit 5 degrés l'après-midi. Encore un ciel lumineux pour l'ensemble de l'Occitanie. 13 tout près du jet d'eau au rond-point de Cahors ainsi qu'à Toulouse et Auch. 8 à Lannemezan. C'est l'heure de faire le tour des diocèses et nous partons en Pyrénées-Atlantiques, Isabelle.
Eh bien, je vous emmène du côté de l'océan. Nous partons à Bayonne ce matin. On y retrouve le délégué épiscopal à l'information, directeur de la communication du diocèse. Je veux parler d'Olivier Drapé qui est en ligne avec nous. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Isabelle.
Alors nous sommes ensemble pour découvrir quels sont les événements à noter, à marquer sur nos tablettes pour les jours ou semaines, ou oui, jours à venir dans le diocèse. Quels
sont-ils ? En tout cas, jours à venir, tout à fait Isabelle. Alors évidemment, il y a pas mal d'événements aussi qui concernent Bayonne, le Pays Basque, la Côte Basque, et pas mal d'événements qui concernent le Béarn, sur lesquels peut-être je vais davantage m'arrêter. En commençant par... tout simplement peut-être des rencontres annuelles qui redémarrent avec la formation permanente des laïcs du Béarn. Car samedi 17 octobre, samedi prochain, autrement dit à Pau, il y aura la première rencontre d'un cycle de formation organisé par la formation permanente sur le thème de l'exil dans la Bible et dans nos vies. Et c'est le service donc de la formation permanente du Béarn qui propose ces rencontres avec deux intervenantes, Jocelyne Bure et Marilyn Sillière, très compétentes. C'est un samedi par mois, c'est de 14h30 à 17h30 et c'est à la salle paroissiale de Saint-Jean-Baptiste du Hameau, qui est une église de Pau. L'adresse, c'est 97 avenue de Buros à Pau. On peut contacter, si on le souhaite, la formation permanente du Béarn au 05 59 84 94 23. Et puis, il y a des événements plus ponctuels, Isabelle, aussi.
On va aller vous entendre.
Voilà, tout à fait. Il y en a un qui me paraît intéressant. C'est toujours à Pau, le jeudi 22 octobre. Donc là, c'est un petit peu plus tard, mais c'est une initiative de la communauté charismatique Réjouis-toi, qui invite toutes les personnes qui le souhaitent à se retrouver le 22, comme je le disais, se retrouver pour louer le Seigneur. C'est une soirée de louange et à 19h15, suivie d'une messe à 20h en l'honneur de l'Esprit-Saint à l'église que les Palois connaissent bien, l'église Notre-Dame du Bout du Pont. C'est rue du Général Tauture, si vous voulez, c'est la rive gauche de Pau. Et c'est un jeudi par mois qu'ensuite cette rencontre aura lieu dans un esprit effectivement plutôt charismatique et pour invoquer le Saint-Esprit et prier le Saint-Esprit. Voilà, donc ça me paraît effectivement une initiative
intéressante à noter.
Qu'on peut souligner, tout à fait. Voilà. Il y a d'autre part des formations dans le diocèse, indépendamment de la formation permanente des laïcs, des formations plus ciblées, on va dire, comme par exemple une formation qui va concerner le 22 octobre également les personnes, les laïcs qui veulent s'investir dans la pastorale du deuil pour les funérailles. Alors il s'agit en fait d'une troisième rencontre, car les deux rencontres précédentes avaient eu lieu avant l'interruption due au confinement, malheureusement. Mais oui. Il y aura donc une rencontre jeudi 22 octobre de 13h30 à 18h30 à Salise de Béarn, organisée par donc la pastorale des funérailles de notre diocèse, afin que les laïcs soient formés pour accompagner les familles en deuil. C'est une initiative intéressante sur laquelle on peut avoir des précisions sur peut-être une adresse mail que je vous donne.
Allez-y.
Un peu compliqué, je la donne quand même. Agnès.cambonie, C-A-M-B-O-N-I-E, @hotmail.fr.
C'est bien noté. Merci beaucoup, Olivier Drapé, pour toutes ces informations. On se forme dans le Béarn, dans le diocèse de Bayonne, et
tout
c'est tant
fait.
Mieux. Je vous dis à dans 15 jours, Olivier. Merci beaucoup.
À très bientôt. Merci, Isabelle. Au revoir.
L'aventure Église verte pour les communautés chrétiennes qui s'engagent dans le soin de la création. Laura Morosini.
Église verte est née en 2017. Toutefois, la conversion écologique des églises est déjà un long chemin qu'elle parcourt depuis 50 ans avec un fort accent œcuménique. Survolons les étapes. En 1970, Paul VI met en garde la FAO, l'Organisation mondiale pour l'alimentation, concernant la façon de pratiquer le développement durable. L'Église luthérienne de Norvège commence à s'occuper de justice, paix et sauvegarde de la création. En 1971, le Conseil œcuménique des Églises organise une série d'études anémies en Italie sur la technologie et l'écologie dans une perspective œcuménique. À cette étude participera John Randers, l'un des auteurs du célèbre Club de Rome. Et cette étude mentionnera la question du climat. Même si la réflexion théologique concernant l'écologie reste minoritaire au niveau des églises, elle continue d'être portée prophétiquement au niveau international en Allemagne, Suisse, Canada, États-Unis et même Alsace-Lorraine, où naissent les premières initiatives de paroisses vertes en lien avec le commerce équitable. Dans les années 80, nous assistons à une dynamique internationale avec le sommet de Bâle, Rassemblement œcuménique européen, en 89, qui fait référence aux questions de la couche d'ozone et de l'effet de serre et demande d'économiser l'énergie, les combustibles fossiles, mais aussi l'énergie nucléaire et de poursuivre le développement des énergies renouvelables. En 92, le sommet mondial de la Terre à Rio est un événement énorme. Y seront présents le Vatican, mais aussi le Conseil œcuménique des Églises et les ONG de chaque Église. Ensuite, pendant la toute première COP en 95 à Berlin, le Conseil œcuménique des Églises défendra l'idée d'un accord strict et contraignant pour lutter contre les changements climatiques. En 1997, en Autriche, voit le jour le réseau européen chrétien de l'environnement, toujours actif aujourd'hui. En 1989, le patriarche œcuménique Dimitrios instaure le 1er septembre comme fête de la création et cette période sera étendue ensuite jusqu'au 4 octobre. En 2007, à Sibiu, en Roumanie, est instaurée donc toute cette période de saison de la création. La grande étape suivante sera en 2015 la publication de l'encyclique Laudato Si et la COP21 qui mobilisera les églises du monde entier.
Radio Présence aux portes du Tarn 97.9.
En ce temps difficile à cause du Covid, nous avons besoin d'être ensemble. Pour cela, vous avez votre direct sur le www.radioprésence.com et profitez des podcasts et pour venir avec vous à n'importe où, l'application smartphone Radio Présence. Dans 6 minutes, votre évangile. Vous êtes en voiture pour rentrer à chez vous, retrouver votre famille. Je vous fais patienter avec Des mots doux, l'envie d'aimer de Daniel Lévy sur votre radio chrétienne. Il est 12h36.
C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde autour, à qui le veut, vraiment. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout pourtant qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher. Depuis la nuit.
Présence à Toulouse 97.9. L'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse et on les jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Jésus choisit cette très belle image de la vigne qui est très importante à ses yeux. Et c'est vrai que lorsque nous lisons déjà l'Ancien Testament, pratiquement presque dans tous les livres de l'Ancien Testament, on parle de la vigne. Et dans le Nouveau Testament aussi, bien sûr. Et donc, c'est vrai que cette image est très importante parce que nous venons de l'entendre, saint Jean le dit clairement. La vigne, c'est le Seigneur, et les sarments, c'est chacun d'entre nous. Dans l'Ancien Testament, il y a un livre qui a été très travaillé, très aimé, j'allais dire, par sainte Thérèse d'Avila, le Cantique des Cantiques. Ne parlons pas donc de son grand ami saint Jean de la Croix dans son Cantique spirituel. Ils ont merveilleusement commenté donc ce livre, le Cantique des Cantiques, qui est un petit livre qui fait juste 8 petits chapitres, mais dans lequel sans cesse on parle de la vigne. Et voilà pourquoi certainement, donc aujourd'hui, pour la fête de Thérèse d'Avila, eh bien l'Évangile porte sur cette vigne. Au passage, Thérèse d'Avila avait 12 frères et sœurs, et je me disais que la vigne, c'est aussi l'abondance, et puis j'avais non pas une distraction, mais je me disais, tiens, 2 siècles avant, pratiquement, une autre sainte avait beaucoup de frères et sœurs, puisqu'ils étaient 24, je veux parler de sainte Catherine de Sienne. Bref, je ne vous parle pas de chiffres et de nombres, je vous parle donc, voilà, de cette abondance de la vie, abondance de la vigne. Et en fait, c'est vrai que la vigne est synonyme, surtout dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau bien sûr, mais de la joie. Et donc, C'est ce qu'elle traduit le plus souvent dans ses écrits, même si c'est difficile. On taille la vigne, n'est-ce pas? Et dans notre propre vie, il y a de ces ruptures, j'ose pas dire de ces coupures terribles. J'en reparle dans une minute. En attendant, par exemple, dans Isaïe, au chapitre 55, c'est connu, Isaïe 5. « Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. » Voilà de quelle amitié je parlais tout de suite. Donc cette amitié entre Dieu et l'homme, et voilà, que Dieu souhaite donc pour l'homme à son tour vers son Dieu. Tellement de passages, je ne citerai encore une fois qu'un autre exemple dans le livre des Juges. Ce passage un peu étonnant, les arbres voudraient voter, en quelque sorte pas voter, mais choisir leur roi, et on demande à la vigne, est-ce que tu voudrais être notre roi? La vigne dit non. Que ferais-je alors du fruit de la vigne qui réjouit et le cœur de Dieu et le cœur de l'homme? Bref, dans les psaumes, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Que veut nous dire le Seigneur? Que cette vigne, elle est choisie, elle est choyée, elle est travaillée par Dieu, mais c'est vrai, je le disais tout de suite, il faut la tailler, et même sévèrement, cette vigne. Quand c'est l'hiver, vous avez peut-être vu des personnes, donc des vignerons, des tailleurs qui taillent la vigne, c'est difficile comme vision. Quand on a les vendanges en septembre, octobre, c'est la surabondance, et en hiver, c'est terrible. C'est un peu donc, c'est ça, j'allais dire, la vie spirituelle. Et donc, la vigne, elle est taillée, et c'est un peu l'image du glaive, dont on parle aussi beaucoup dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Saint Paul en l'occurrence. Ce glaive, ce n'est pas un glaive qui traduit donc la violence, pas du tout. Ce glaive, donc, Saint Matthieu le dit clairement, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix, mais le glaive, ce n'est pas le glaive de la violence, bien que cela fasse très mal, mais c'est le glaive de la parole. N'oubliez pas que le mont Sinaï a un autre nom qui est très connu, c'est le mont Horeb, et Horeb en hébreu, c'est le glaive, c'est précisément ce qui tranche, mais ce qui tranche, c'est la parole de Dieu, la parole de vérité, et sans cesse, c'est vrai qu'elle y faisait référence, Thérèse d'Avila, à cette parole de Dieu qui tranche, qui est vive. C'est peut-être une grande douleur, mais pourquoi? Précisément pour qu'il y ait donc ces vendanges. Et c'est ce que dit donc Saint Jean, mais c'est le Père qui le dit. Enfin, c'est le Fils qui le dit à son Père. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Et c'est vrai qu'avec Saint Jean, puisque tous les évangélistes, les synoptiques en parlent, Saint Jean, lui, il souligne, on vient de le proclamer à l'instant, donc la partie, j'allais dire, cachée, invisible de la vigne, c'est-à-dire cette sève. Cette sève, c'est le Saint-Esprit, c'est celui qui nous anime de l'intérieur. Et Thérèse d'Avila, combien de fois dans ses œuvres, dans son œuvre, donc, nous encourage à faire donc ce lien avec celui qui est intérieur à nous-mêmes et qui nous est donné, voilà, par les sacrements, en particulier par le baptême, c'est Dieu. Il s'agit donc, elle le dit sans cesse, et c'est son expérience première, il s'agit donc de prier, de garder les commandements de la parole de Dieu, de demeurer avec lui, de l'aimer, et donc de porter du fruit. Ça, c'est tout à fait donc l'essence même, j'allais dire, de l'œuvre de Thérèse, et qui nous invite, un peu comme les pèlerins d'Emmaüs, à dire à Jésus, mais reste avec nous, demeure avec nous. Et donc, je vous cite juste une petite phrase de Sainte Thérèse, le fait de prier, dit-elle, signifie que nous sommes invités à fréquenter le Seigneur, voilà, avec amitié, car nous sommes alors en tête à tête avec celui qui nous aime. C'est dans la partie vie, au chapitre 8. Elle était donc très habitée de ce désir de voir Dieu, Thérèse. Décidément, toutes les Thérèses, je pense aussi à Thérèse de Calcutta. Et donc, en cet instant, c'est le miracle de Cana encore, donc, cette image de la vigne, et ce que nous allons célébrer tout de suite, c'est le sommet de ce que peut produire la vigne. C'est l'eau qui est changée en vin et le vin qui est donc maintenant, par la consécration, le sang du Christ. Voilà certainement ce que voulait nous apprendre donc Thérèse d'Avila, cette intériorité, donc être habité par le sang du Christ pour que nous puissions devenir ce qu'il est lui-même. Amen.
Le rappel des titres arrive très vite dans moins de 5 minutes pour tout savoir en ce jeudi 15 octobre et en toute fin d'heure, votre météo. En attendant, vous retrouvez les collégiales avec famille sur votre radio chrétienne dans notre partie d'Occitanie.
Écrever le silence quand c'est à toi que je pense. Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens, mais tout ça n'a pas d'importance.
Je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pauvre, riche ou bâtard, blanc ou noir ou bizarre, je reconnais ton regard.
Et tu cherches une image, et tu cherches un endroit où je dérive parfois.
De ma famille, de mon ordre et de mon rang,
celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens.
Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang, des poignées de secondes dans cet étrange monde
qui te protège si longtemps.
Où tu vas, ni bien comment, ni pourquoi.
Tu crois pas grand chose, ni tout gris, ni tout rose, mais ce que tu crois, c'est à toi.
T'es du parti des perdants, consciemment, viscéralement.
Et tu regardes en bas, mais tu t'en verras pas tant qu'on aura besoin de toi.
Et tu prends les bonheurs comme grains de raisin, petit bout de petit rien.
Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens.
Tu es de ma
qu'il te protège si
en temps.
Radio Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, le rappel des titres. Couvre-feu pour les deux métropoles d'Occitanie. Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des lieux publics et interdiction de circuler de 21h à 6h. Ces nouvelles mesures sont applicables sur Toulouse et Montpellier. L'Occitanie en rouge dans une carte de l'Europe de zones les plus touchées par l'épidémie. Une carte publiée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies fait état de la situation sanitaire dans le continent. À Blagnac, le plus gros squat de la région toulousaine a été démantelée hier. 85 personnes ont été évacuées. La situation de chaque occupant doit être examinée par la préfecture et l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le 58e salon international de l'agriculture est lui annulé. En 2020, 120 producteurs et 50 éleveurs d'Occitanie avaient un stand au salon. 950 participants d'Occitanie étaient en lice au concours général agricole. La sénatrice de Tarbes, Viviane Artigalas, nommée rapporteure de la mission sur la réforme d'Action Logement. Cette commission devra, dans les délais très brefs du débat sur la loi de financement, dresser un bilan de la politique du gouvernement en matière de logement social. L'agglomération Grand Auch, cœur de Gascogne, poursuit son enquête. Elle est réalisée en prévision du renouvellement du contrat de délégation des services public pour le transport urbain. Objectif, mieux connaître les habitudes de déplacement des citoyens afin d'améliorer le réseau de bus. La distribution d'électricité est perturbée sur une partie de la ville de Florence dans le Gers. Le câble souterrain exploité en 20 000 volts qui alimente le transformateur desservant le quartier rue des Peupliers est endommagé en plusieurs endroits. Une gendarme de Lourdes remporte le championnat de France de cyclisme. Lydie Chantry, âgée de 28 ans et maréchale des logis-chefs à Lourdes, est montée sur la plus haute marche du podium. La météo en attendant dans quelques secondes, 13h pour cet après-midi, 12 degrés en moyenne dans notre partie d'Occitanie avec des éclaircies demain matin. Le temps sera très nuageux dans le Lot près de la place nationale à Montauban avec 6 degrés, 4 pour Rodez. Le mercure montera avec 7 degrés et du soleil. Pareil pour le Gers et en Haute-Pyrénées avec un petit 5 degrés. L'après-midi, encore un ciel lumineux pour l'ensemble de l'Occitanie. 13 tout près du jet d'eau au rond-point de Cahors, ainsi qu'à Toulouse et à Auch, 8 à Lannemezan. Je vous laisse en compagnie de Radio Vatican pour votre journal international. Moi, je vous dis à demain. Prenez soin de vous.
Présence à Figeac, 97.7.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Des centaines de manifestants pro-démocratie sont toujours rassemblés dans le centre de Bangkok. Ils ont défié le décret d'urgence promulgué.